VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 27 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Les titres pour commencer. Deux policiers ont été tués dans une nouvelle attaque contre un commissariat dans le nord du Bénin. La guerre contre les djihadistes est en train d'être gagnée, assure le président nigérien Mohamed Bazoum. Kinshasa, dernière étape aujourd'hui du pèlerinage mémoriel retraçant la vie de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de la RDC. En Afrique du Sud, 21 jeunes meurent après une soirée dans un bar. Le chef de la commission de l'Union africaine réclame une enquête sur la mort de migrants africains à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. En Allemagne, à l'initiative des États-Unis, le G7 a mis sur les rails dimanche un vaste programme d'investissement à destination des pays en développement. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Ongpatine ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Bénin, le commissariat de Dassari, situé à Matéri, près de la frontière du Burkina Faso, a été pris pour cible par un groupe armé dans le nord du pays. C'est le deuxième commissariat attaqué en l'espace de quelques semaines dans cette région. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Deux policiers et deux assaillants ont été tués. Il y a eu aussi des blessés, dont un policier, et d'importants dégâts matériels comme l'incendie des centaines de motos. C'est le bilan provisoire de cette nouvelle attaque aux premières heures du dimanche à Matéri, dans le nord du Bénin. Les assaillants seraient tous venus à moto. Alerté, l'unité de l'armée à Porga, non loin de la réserve de Pengari, est arrivée à la rescousse. Pour le moment, les autorités béninoises n'ont fait aucun commentaire sur cette attaque qui n'a pas été revendiquée, tout comme celle du 26 avril contre le commissariat de où un policier a été tué. Face à la multiplication des assauts dans la partie nord du pays, le Bénin a décidé de renforcer son dispositif sécuritaire dans la région. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le président nigérien Mohamed Bazoum, en visite dans le sud-est de son pays, proche du Nigeria, a salué dimanche ce qu'il a appelé les bons résultats contre les djihadistes de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, sa branche dissidente. M. Bazoum a assuré que la guerre était en train d'être gagnée. Les résultats sont là, ils sont bons, s'est félicité Mohamed Bazoum devant des militaires dans une garnison de Diffa. Nous avons rendu plus consistant le dispositif sécuritaire. Nous sommes en train de gagner cette guerre. Il nous reste très peu d'efforts, a-t-il également lancé aux soldats stationnés dans la commune de Geskerou, toute proche du Nigeria, estimant que la fin de Boko Haram est très proche. Deuil national, hommage officiel et populaire, suivi de l'inhumation, le cercueil de Patrice Lumumba, ce lundi à Kinshasa, dernière étape du pèlerinage mémoriel qui a retracé la vie du héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Nanit Talani.
L'avion transportant sa dépouille, dont il ne reste qu'une dent, restituée le 20 juin par la Belgique à la RDC, devait quitter Lubumbashi dans la matinée. Au moment du décollage, les drapeaux devaient être mis en berne sur toute l'étendue du territoire en hommage au premier ministre du pays, assassiné il y a plus de 61 ans pour un deuil national prévu jusqu'au 30 juin. Le président Félix Tshisekedi doit être à la tête du comité d'accueil du cercueil à l'aéroport international de Ndili de Kinshasa, entouré des chefs coutumiers présents dans la capitale congolaise, selon le programme officiel. Comme aux étapes du Sankuru, sa terre natale, de Kisangani, ancien fief politique du héros national, et du Haut-Katanga, le lieu de son assassinat, le 17 janvier 1961, un programme culturel et religieux est prévu à Kinshasa, l'étape du deuil national et de l'inhumation.
En Afrique du Sud, 21 jeunes sont morts après une soirée dans un bar d'East London dans la province du Cap-Oriental. La police a ouvert une enquête sur la cause de ces décès, Lionel Gahima.
Le corps des 17 jeunes, morts sans blessure apparente, ont été découverts hier dans un bar de nuit d'un township de cette ville côtière. 4 autres jeunes sont ensuite décédés à l'hôpital. Des bouteilles d'alcool vides jonchaient la rue devant la taverne Egnobeni. Les victimes étaient vraisemblablement des élèves qui célébraient la fin des examens, a dit un responsable des services de santé. Des hauts responsables du gouvernement se sont rapidement rendus sur les lieux, dont le ministre de la Police nationale, Beki Sele, qui a fondu en larmes en sortant de la morgue, disant qu'il s'agit de 13 garçons et 8 filles. Le président Cyril Ramaphosa, qui se trouve au sommet du G7 en Allemagne, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Il s'est dit préoccupé par le fait que ces mineurs aient pu se réunir dans un tel lieu. De nombreux débits de boissons informelles sont tolérés dans les townships des grandes villes sud-africaines. La réglementation sur l'âge légal pour la consommation d'alcool n'est pas toujours appliquée.
Le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a réagi avec choc dimanche soir dans un tweet face à ce qu'il a appelé le traitement violent et dégradant de migrants africains qui tentaient vendredi de se rendre du Maroc en Espagne. Il a demandé une enquête après la mort d'au moins 23 migrants lors d'une tentative d'entrée massive de 2000 d'entre eux dans l'enclave espagnole de Melilla.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des pays du G7 réunis en sommet en Bavière, en Allemagne depuis hier, ont affiché leur détermination à soutenir l'Ukraine face à la Russie visée par de nouvelles sanctions. Ils doivent aussi se pencher sur d'autres grands défis tels que l'urgence climatique ou la sécurité alimentaire et énergétique, Nathalie Barge.
Le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé un embargo sur les importations d'or russe avant même que la décision ne soit formalisée par l'ensemble du G7. L'interdiction porte sur l'or nouvellement extrait en Russie sans viser celui déjà vendu. Monsieur Biden a lancé un nouvel appel à l'unité du G7 et de l'OTAN face à Moscou et le chancelier allemand Olaf Scholz a également loué cette unité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit intervenir ce lundi en visioconférence. Le conflit et ses répercussions occuperont une grande part des discussions. Joe Biden a annoncé un vaste programme d'investissement du G7 pour les pays défavorisés de près de 600 milliards de dollars d'ici 2027, dont les États-Unis promettent de mobiliser 200 milliards de dollars. Les dirigeants du Sénégal, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Indonésie et d'Argentine ont été conviés à ce sommet. Leurs pays sont particulièrement exposés au risque de pénurie alimentaire et à l'augmentation des coûts de l'énergie.
Pour rappel, le président Macky Sall du Sénégal est aussi le président en exercice de l'Union africaine. En Ukraine, des missiles russes ont touché hier un complexe résidentiel proche du centre de Kiev, la capitale, faisant un mort et plusieurs blessés, selon les autorités. C'était quelques heures avant l'ouverture du sommet du G7, où il est largement question donc de l'Ukraine et de l'invasion russe de ce pays. Les frappes visaient une usine de production de missiles, selon Moscou, qui a qualifié de fausses les informations selon lesquelles elles avaient touché une zone résidentielle. Des diplomates des États-Unis, d'Israël et de 4 pays arabes, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Égypte, se réunissent ce lundi à Bahreïn, 3 mois après une rencontre historique sur le sol israélien visant à renforcer leur coopération, ont indiqué dimanche des responsables israéliens. En mars, les ministres des Affaires étrangères de ces 4 pays avait tenu une rencontre inédite dans un kibboutz du désert de Negev, dans le sud d'Israël, avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. des États-Unis. Des élus américains des deux côtés de la profonde fracture qui divise le pays ont entamé dimanche ce qui s'annonce comme une bataille tendue et durable sur l'avortement, aussi bien au niveau des États qu'au Congrès, alors que la moitié du pays s'apprête à interdire l'IVG suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis. Minuteco, Nathalie Barge.
Le programme d'investissement pour les entreprises innovantes détenues par des femmes en Afrique subsaharienne, She Equity, a lancé la première édition francophone SHEBA, acronyme de She Business Accelerator. La date limite de dépôt des candidatures pour les francophones ouest-africaines est le 29 juillet. L'appel pour les anglophones est déjà clôturé. L'édition se déroule sur 4 mois. Les entreprises doivent être détenues par des femmes avec un minimum de 51%. L'Éthiopie a perdu sa participation de 19% dans le port de Berbera pour avoir dépassé la date limite de sa contribution à la construction, a annoncé le ministre des Finances du Somaliland, Saad Ali Shir. Addis Abeba s'est associé à Dubai Port World pour faire de Berbera une alternative au port d'Érythrée de Djibouti. DP World détient 51% des parts du port, tandis que le Somaliland et l'Éthiopie possèdent respectivement de 30% et 19% des participations. Selon la presse kenyane, la société Arise BV a acquis une participation supplémentaire de 9 millions de dollars dans le groupe Equity, consolidant sa position de principal actionnaire de la holding de services financiers présente dans 6 pays africains avec environ 13% de parts de capital devant la société financière internationale qui détient 6,71%.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Oukpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football féminin et en match amical, le Cameroun a perdu face à la France.
Oui, les Lions indomptables n'ont tenu qu'une demi-heure avant de céder lourdement 4-0 à une semaine du début de la CAN. Elles ont encore 7 jours pour peaufiner leur préparation avant leur premier match face à la Zambie. La Coupe d'Afrique des Nations féminines, c'est du 2 au 23 juillet à Rabat au Maroc.
Au niveau des hommes à présent, le FC Noisy-Dibourg remporte le championnat en Mauritanie.
Tout à fait. Le club de la capitale économique du pays conserve son titre de champion pour la 5e fois de suite. Son 10e au total après avoir réalisé l'essentiel 1-0 sur le terrain de Kaidi FC. Fin de la saison également hier en Tunisie. Et c'est l'Espérance de Tunis qui est sacré champion. Les Sang et Or ont remporté le 32e titre de leur histoire, le 6e d'affilée au terme d'un match difficile qu'ils ont remporté à l'arraché 2-1 face à l'Union sportive de Ben Guédane.
On jouait en revanche la finale de la Coupe nationale au Sénégal.
Et c'est le Casasport qui remporte le trophée en dominant facilement 3-0 les pensionnaires de 3e division Étoile Lusitana. Sacré champion il y a une semaine, le club de Ziguinchor réalise donc le doublé Coupe championnat. Et puis Coupe également au Mali. Et c'est le Djoliba AC qui remporte la 61e édition suite à sa victoire 2-0 en finale face à l'AS Real. C'était sous les regards de notre correspondant à Bamako, Issaka Traoré.
Le Djoliba Athletic Club est en passe de réussir son double objectif au compte de la saison qui s'achève. Il s'agit de faire un doublé, c'est-à-dire gagner d'une part la Coupe du Mali et d'autre part devenir champion. Les Rouges de Bamako, comme on aime à les appeler, ont réussi leur premier objectif. La confrontation Djoliba AS et Real était fortement attendue. Ce sont deux clubs qui se connaissent parfaitement. Avant le match de samedi dernier, Djolibis et Realis se sont rencontrés 7 fois en finale de la Coupe du Mali. Sur les 7 confrontations, le Djoliba a remporté 4. Le trophée de 761e édition complète à 20 pour le Djoliba. Même nombre de trophées pour le Stade Malien de Bamako. Cet autre club du Mali qui jusqu'ici avait le plus grand nombre de trophées en Coupe du Mali. Une source de motivation pour le Djoliba de se concentrer sur son 2e objectif, à savoir remporter le championnat. Parce qu'à 4 journées de la fin du championnat, le Djoliba est premier avec 55 points. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Du football encore pour finir et un mot du marché des transferts.
C'est officiel désormais. L'international nigérian Taiwo Ooni quitte l'Allemagne et l'Union Berlin pour rejoindre l'Angleterre où il signe un contrat de 5 ans avec le premier Nottingham Forest. L'attaquant de 24 ans, auteur de 15 buts en Bundesliga la saison dernière, retrouve ainsi un championnat qu'il connaît après avoir évolué sous les couleurs de Liverpool.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Gabon a rejoint samedi le Commonwealth, devenant ainsi l'une des dernières nations sans liens historiques avec le Royaume-Uni à entrer dans le club anglophone. Cette décision, cette adhésion, intervient après un long et rigoureux processus de 18 mois. C'est un moment historique, une nouvelle page de l'histoire du Gabon s'ouvre 62 ans après son indépendance, a déclaré le président Ali Bongo. Les réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Nous sommes convaincus que notre appartenance au Commonwealth permettra de manière collective à améliorer le bien-être de nos peuples.
Moussa Dadamou, ministre gabonais des Affaires étrangères, s'exprimant à la fin du sommet à Kigali au Rwanda.
Nous sommes impatients pour un engagement déterminé sur tous les points essentiels tels que l'égalité des droits, l'égalité des genres, le droit des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, les changements climatiques, la promotion de la démocratie, la liberté d'expression, la paix et la sécurité à travers le monde.
Mais quelques Gabonais affichent une certaine réserve après l'adhésion de leur pays au Commonwealth. Steve Zamba est un agent public de l'État.
Si pour adhérer au Commonwealth, on va nous dire, votre façon, vos valeurs qui sont les vôtres en Afrique et au Gabon en particulier, il faut mettre ça dans la poubelle parce que, nous, dans le Commonwealth, on aime telle chose, on n'interdit pas ci, on n'interdit pas ça. Mais écoutez, mieux vaut être soi-même avec ses propres valeurs et avancer. Je n'ai pas envie de dire tout seul, mais avancer avec des partenaires qui peuvent nous aider à évoluer tout en restant nous-mêmes.
Saturnin Mba est communicateur.
Je crois qu'on n'a pas beaucoup associé les personnalités locales. On aurait pu créer une langue nationale déjà avant de sortir. Parce que vous voyez, en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a des pays qui réussissent à communiquer entre eux et sans pourtant que nous autres, là, francophones, ne puissent écouter ou en comprendre.
Plus de 10 ans après le projet avorté de l'instauration du bilinguisme à l'école, l'usage de l'anglais fait toujours débat dans plusieurs milieux à Libreville. Délia Mbumba est une élève fraîchement admissible au baccalauréat.
Je trouve que c'est une bonne langue et que c'est toujours mieux de parler de langue. Au Gabon, on parle du fait que l'anglais sera peut-être la deuxième langue après le français. C'est-à-dire que donc, sur 10 sociétés, au moins dans 9, on devra parler anglais.
D'autres ont une opinion plus tranchée, comme Patrice Moussavo, entrepreneur dans le bâtiment.
Quand on regarde le contexte socio-économique et la situation plus globalement sociopolitique de notre pays, des situations, des histoires comme le Commonwealth, comme vous le dites, pour faire l'économie des mots, ce n'est absolument d'aucune importance pour le Gabonais lambda que je suis.
S'il ne quitte pas la francophonie, Libreville décide d'intégrer un autre espace multiculturel. C'est pareil pour le Rwanda qui est en même temps à la tête de la francophonie et vient d'accueillir son premier sommet du Commonwealth. Ismaël Obiangze, Libreville pour VOA Afrique.
De son côté, le Togo a rejoint le Commonwealth. Cette adhésion est vue comme une bonne chose par la population. Si beaucoup s'enthousiasment sur les opportunités économiques, commerciales et académiques, il est demandé au gouvernement togolais de s'inspirer des bonnes pratiques démocratiques des membres du Commonwealth, nous dit de Lomé notre correspondant Kossi Wusu.
Au campus universitaire de Lomé, l'annonce de l'acceptation de la candidature du Togo dans le Commonwealth est largement adoubée par les étudiants. La jeune Adjara, étudiante en gestion des ressources humaines, y voit une ouverture supplémentaire.
Oui, c'est une bonne chose. D'abord pour le Togo parce que on a le français déjà et avoir en plus l'anglais parce que là l'anglais sera encore plus une obligation pour nous. C'est un atout. Donc intégrer le système anglais dans notre système à nous, c'est une opportunité pour les étudiants.
Opportunité aussi pour les jeunes entrepreneurs qui vont désormais se frotter aux pratiques du monde des affaires anglophones. Simplice Gaou, expert en management d'entreprise.
Pour les jeunes entrepreneurs, ça va être une ouverture des marchés. Donc on aura accès aux marchés des autres pays du Commonwealth. Et le second point positif, ça va être aussi le mixage entre les différentes cultures, la culture anglo-saxonne et la culture francophone en termes de business. Et il est indéniable que dans le business, les anglo-saxons ont une plus grande expertise. Donc du coup, le Togo adhérant au Commonwealth va permettre aux jeunes entrepreneurs d'apprendre, de copier les bonnes pratiques et d'avoir aussi une ouverture par rapport aux pays africains qui sont déjà membres du Commonwealth.
Emenefa Eklou de l'association Femmes Pyramides, une association de la société civile, émet toutefois quelques réserves en matière de gouvernance.
Notre crainte est légitime et vient du fait que le Commonwealth est moins regardant et a un bilan très mitigé sur les questions de droits de l'homme, malgré qu'au sein de cette organisation, on retrouve de grandes démocraties comme le Canada, Angleterre, Australie, etc.
L'analyste politique Nuhu Djibo, président du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises, souhaite que le Togo prenne exemple sur les bonnes pratiques observées dans les pays membres du Commonwealth.
Nous espérons que cette adhésion-là puisse apporter un certain changement dans sa façon de faire la politique, que ce soit au niveau de la démocratie, où on voit de plus en plus une atteinte grave aux libertés de manifestation, alors que pratiquement dans les pays qui font partie du Commonwealth, on voit que ces libertés-là, les populations arrivent et à en jouir librement.
Sur son compte Twitter, le président Fornia Singbe a remercié les États membres du Commonwealth pour l'acceptation de la candidature de son pays. L'adhésion du Togo à cette grande famille est une évolution que nous avons souhaitée dans une perspective de renforcement de la coopération entre États et du brassage des peuples, a-t-il indiqué. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Élections législatives le 31 juillet au Sénégal, mais des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer le report de ce scrutin en raison des tensions politiques dans le pays. Deux experts sénégalais apportent leur réponse au micro de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Ces derniers jours, des médias locaux ont annoncé une demande de report faite par l'Union européenne, obligeant le porte-parole du président Macky Sall à publier un démenti. Mais le report d'une élection ne peut se faire que pour des raisons impérieuses, selon Iba Barry Camara, professeur de droit.
En cas de calamité naturelle, lorsque on est en guerre, lorsque justement les institutions, pour des raisons de force majeure, ne peuvent plus fonctionner, dans ces cas-là, il va sans dire que si on avait fixé une élection, la date allait être reportée.
Les heures ces dernières semaines suite au rejet de la liste des titulaires de la coalition d'opposition Yehu Askanoui ont fait 3 morts. Pour le moment, l'opposition campe sur ses positions et le pouvoir aussi. Babacar Fall, expert électoral.
Ici au Sénégal, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un débat sur l'opportunité de reporter ou de ne pas reporter suite aux tensions politiques que nous sommes actuellement en train de noter. Alors que maintenant, ces tensions peuvent atteindre un tel niveau que la stabilité du pays peut s'en trouver menacée. Dans ce cas, le président de la République peut effectivement donc prendre un décret pour, reporter les élections.
Pour le juriste Iba Barry Camara, ce report, s'il doit avoir lieu, doit être acté de manière inclusive, car le président ne peut pas le faire seul si l'on prend en compte les lois de la CEDEAO.
Ce qui est le plus normal dans un cadre démocratique, c'est que toute la classe politique se réunisse et constatant que les élections ne peuvent pas se tenir, décider à l'unanimité de reporter les élections. Le problème, c'est que si l'on se réfère aux dispositions donc CEDEAO, il est interdit aux autorités en place de procéder à une modification de toute loi électorale.
Un renvoi du scrutin qui n'est pas sans conséquence sur le processus électoral, d'après Babacar Fall.
La conséquence sur le processus, c'est que aujourd'hui, tout va être, disons, repris à zéro. C'est-à-dire qu'il va falloir, disons, recommencer le processus, recommencer l'enregistrement des candidatures, le parrainage éventuellement, ou en tout cas supprimer le parrainage et demander aux candidats de déposer directement donc les listes.
L'impasse politique continue. D'une part, la coalition d'opposition Yehu Askanoui veut coûte que coûte participer à ce scrutin. Pour se faire entendre, elle vient d'organiser un énorme concert de casseroles. Et d'autre part, les autorités font la sourde oreille malgré tout le tintamarre. Il faut savoir aussi que le pays de la Teranga, souvent cité comme vitrine démocratique sur le continent, a rarement connu dans son histoire des élections législatives sans tension. C'est Lina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le défi est lancé pour la modernisation du service public à l'horizon 2030, selon l'indice 2021 du niveau de numérisation. Le Cameroun occupe la 146e place sur 196 pays, un classement que les autorités veulent améliorer par des initiatives de numérisation du service public qui commencent déjà à prendre corps. Elles ont été présentées au grand public lors du Salon de l'action gouvernementale. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Quand on est classé 146e sur 196, on n'est pas très bien classé. Il faut que nous en soyons conscients. Et nous en sommes conscients.
Joseph Lay est le ministre camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative, qui est la cheville ouvrière de cette modernisation.
Nous allons également insister sur le nouvel agent public camerounais. Un nouvel agent public qui change complètement ses méthodes de travail, qui change les approches et qui s'arrime à la nouvelle donne technologique. Mais il y a un levier très important, c'est le changement de mentalité. Nous avons constaté des réticences ici et là, mais Dieu merci, elles ne sont pas très nombreuses.
Des tonnes et des tonnes de paperasses ont engendré des lenteurs administratives, de la corruption et provoqué parfois des mouvements d'humeur, des agents publics mécontents de la gestion de leur carrière. Une plateforme du ministère de la fonction publique permet aujourd'hui de suivre les dossiers d'intégration, témoigne un fonctionnaire.
J'ai réussi quand même à suivre ce dossier à travers mon matricule et la plateforme du ministère de la fonction publique. Je crois avoir eu satisfaction à ce niveau, que ce soit dans les actes d'intégration et le suivi des autres actes de carrière. C'est déjà quelque chose qui n'était pas forcément visible avant.
D'autres départements et institutions publiques semblent emboîter le pas, à l'instar de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme créée en 2017, dans le but de renforcer le vivre ensemble au plus fort de la crise anglophone. Jean-Marc Afessimbafor, membre de la dite commission.
Nous sommes une commission moderne. Nous utilisons tous les outils modernes qui sont à notre disposition. Nous avons déjà une ligne verte, le 15-18, que tout le monde peut appeler pour soit dénoncer les actes de xénophobie, des dénonciations qui ont trait avec les discriminations basées sur la langue.
Face au déficit d'énergie électrique, les agents et usagers du service public en zone rurale ne bénéficient pas toujours des outils de modernisation. Lors du salon de l'action gouvernementale, Innoftech Solar Energy, une entreprise dirigée par de jeunes Camerounais, a présenté au gouvernement la solution passant par les énergies renouvelables. Eric Ngoufofon fait partie de l'équipe dirigeante de la dite entreprise.
Tout à l'heure, monsieur le ministre disait que pour envoyer un dossier, on n'a plus besoin de venir à Yaoundé. Il y a les comptes WhatsApp, il y a les mails. Supposons que vous êtes en train d'envoyer un mail et qu'il y a coupure de courant. Nous voulons pallier à tout cela, à ce que nos fonctionnaires se sentent agréables à travailler, parce que tout document qu'il va envoyer, il est sûr qu'il arrivera à temps.
Le gouvernement envisage d'installer dans 3 grandes écoles du pays des mini-campus pour tester le niveau de connaissance des outils informatiques des agents qui sollicitent travailler désormais au sein de l'administration publique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia au micro. À la mise en onde, nous avions Lionel Runanira Gaïma et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.